Nous lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 1er. Verset 1er. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel, Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn dressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Et il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Amen. La semaine passée, nous avons commencé avec le dernier verset que nous venons de lire. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Et puis nous avons considéré les deux généalogies et on a sorti des enseignements à partir de ces deux généalogies. Là, on va s'arrêter sur la personne de Caïn. Dans le chapitre 3, nous voyons comment le péché est entré dans l'humanité. Et dans ce chapitre 4, nous voyons les fruits, les dégâts que cause le péché. Le péché prend le dessus, il produit des drames, des souffrances et de la douleur. Dieu a voulu éviter ce drame en avertissant Caïn, en l'interpellant. Mais cela n'a pas suffi. Rappelons-nous que Dieu ne veut pas seulement pardonner nos péchés. Il veut aussi nous éviter de pécher. Parce que même quand mes péchés sont pardonnés, ils ont quand même des conséquences. Et c'est quand même mieux d'éviter de pécher que de pécher. Ou même d'avoir des péchés pardonnés. Je crois que c'est bien de le rappeler. Le Nouveau Testament cite Caïn à trois reprises. 1 Jean chapitre 3, verset 11, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Jude, au verset 10, dans son épître, il parle aussi de Caïn. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse, de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, et ils se sont perdus par la révolte de Corée. La voie de Caïn semble être cet engrenage d'endurcissement et de corruption intérieure qui l'a conduit au meurtre et à s'exiler loin de la face de l'Éternel. Et puis dans Hébreux, chapitre 11, verset 4, il nous est dit ceci, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoi que mort. » Caïn n'a pas seulement commis un crime, il a commis une succession de fautes qui se sont enchaînés, il y en a avant le crime, et il y en a même après, et je voudrais qu'on les considère. La première faute, bien sûr, que l'on relève, il nous est dit que Caïn fut désapprouvé dans l'offrande qu'il fit à l'Éternel. Alors la première chose qu'il faut dire ici, c'est que le texte ne nous dit pas exactement en quoi Caïn fut désapprouvé dans son offrande. Mais le verset 7, quand Dieu lui dit « si tu agis bien », montre clairement que même si nous on ne sait pas pourquoi il a mal agi, Caïn le sait lui. Et finalement c'est ça qui importe. Lui, il sait pourquoi il a mal agi. Et il sait qu'il a la possibilité de corriger et de redresser la chose. Il avait la possibilité de redresser. Une autre observation, et je pense que c'est très important, il est important de souligner que Dieu n'a pas seulement regardé l'offrande, mais il a regardé la personne et le cœur. Regardez comment c'est dit. Il nous est dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La personne est mise avant l'offrande. Et je crois que c'est important parce que j'irais même jusqu'à suggérer que si c'est Abel qui avait fait une offrande de la terre et Caïn qui avait offert un animal, rien n'aurait changé. J'irais jusque-là pour dire, j'ose un petit peu, mais j'irais jusque-là parce que le problème, il est au niveau de la personne. Et il est d'abord au niveau du cœur. Et l'offrande, c'est le problème, c'est pas le problème principal, même si il y a ce problème. Mais quand il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 4, que c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui qu'un, on comprend que ça se passe au niveau du cœur, de la foi, de la démarche, et puis même dans la personne. Il y a chez Abel cette volonté de mettre Dieu en premier, de l'honorer, il offre son premier-né, une volonté que Dieu n'a pas vue chez Caïn. Autre point, et ça me paraît important, les deux finalement ont des intentions louables. Les deux veulent exprimer leur reconnaissance à Dieu. Abel veut exprimer sa reconnaissance à Dieu, mais Caïn aussi. Et il me semble logique même que Caïn ait apporté finalement le fruit de son travail. Les deux veulent même l'approbation de l'Éternel. Et ça, c'est un bon désir. Le problème chez Caïn, c'est que manifestement, il veut l'approbation de Dieu, mais à sa manière. Quelqu'un a dit, j'ai bien aimé cette phrase, vous pouvez aller au paradis en faisant comme Dieu dit, mais vous pouvez aller en enfer en faisant comme vous voulez. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est là, à ce niveau, c'est que, de toute évidence, Caïn, il veut faire les choses comme il le veut. Il fallait s'approcher de Dieu par un sacrifice sanglant. Ça, il le savait. Les deux le savaient, depuis le jardin d'Éden. Adam et Ève s'étaient conçus des habits avec des feuilles et Dieu avait donné des vêtements de peau. Ils savaient que pour obtenir la faveur de Dieu, ça passait par un sacrifice sanglant. Caïn, il a voulu proposer autre chose. Le fruit de son travail, quelque chose de méritoire, quelque chose qu'il valorise. Abel, il est passé par le chemin qui était indiqué, la voie qui était indiquée. Un sacrifice sanglant, un sacrifice qui pointait déjà vers certaines choses, qui faisait réaliser la gravité du péché. Comment le péché peut être expié, ça enseignait tout cela. Et aujourd'hui, le chemin pour s'approcher de Dieu, c'est toujours le même. La différence, c'est que nous, on n'a pas à s'approcher avec un sacrifice sanglant, nous avons à faire un sacrifice, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Il est le sacrifice parfait. Mais le chemin, il est toujours le même. Je ne suis pas sûr que Caïn sache tout cela. Et je dis bien, le problème, il est d'abord dans son cœur. L'offrande n'est que la partie visible du problème. Retenons en tous les cas cette pensée. Beaucoup de personnes veulent l'approbation de Dieu, mais sans obéissance, sans se laisser transformer au niveau du cœur. Il y a un homme qui illustre parfaitement cela, c'est Jacob. Jacob, depuis le début, il a toujours voulu la bénédiction. Mais au départ, il la veut en trichant, en volant, en magouillant. On voit qu'il garde cette détermination à vouloir la bénédiction de Dieu tout au long de sa vie. Mais après, il change. Après, il a compris que la bénédiction de Dieu, elle passe par l'obéissance, par mettre de l'ordre dans sa vie. Elle passe par le fait de se laisser transformer et de laisser régner Dieu sur son cœur. Je crois que c'est un point qu'il fallait souligner. La deuxième faute, le deuxième dérapage que j'observe, Caïn n'a pas supporté la déception et il s'est laissé entraîner, envahir par la haine, puis la colère, la jalousie, enfin vous mettez le mot que vous voulez, ils sont tous là. Caïn, il a été déçu, il est triste. Quand il a vu que Dieu a préféré l'offrande de son frère plutôt que la sienne. D'ailleurs, je me pose une question. Il semble que Caïn ait fait le premier la démarche. Et manifestement, il n'y a eu aucun signe de la part de l'Éternel. Et puis, Abel fait sa démarche. Et là, il y a la manifestation de l'approbation de Dieu. Peut-être que c'est le feu qui est tombé sur l'offrande. Et c'est là où il exprime qu'il est triste. Vraiment, il paraît peut-être plus triste de ce que l'offrande de son frère est approuvée, plutôt qu'il n'y a pas eu d'approbation sur la scène. C'est une question, je m'interroge. Toujours est-il que c'est normal qu'il soit déçu. Le problème, ce n'est pas la déception. Le problème, c'est la gestion de la déception. Rappelons-nous que c'est inévitable d'être déçu. Nous serons déçus un jour ou l'autre. Alors on peut être déçu par quoi ? On peut être déçu par soi-même. Parce qu'on n'est pas à la hauteur. On a pris un engagement, et puis on n'a pas tenu. On n'a pas eu les résultats. On peut être déçu par l'absence de résultats. On peut être déçu par les autres. Mais on peut être aussi déçu par Dieu. Parce que je prie, et Dieu n'exauce pas. Ou l'exaucement qu'il me donne n'est pas celui. La déception, c'est toujours un décalage entre mes attentes et la réalité. Et Dieu, un jour ou l'autre, il nous fait passer par ce chemin-là. Nous disons souvent, Dieu m'a jamais déçu. Je rappelle, parce que je l'ai déjà dit, c'est un raccourci. On peut parler et dire, Dieu m'a jamais déçu, quand on a finalement fini par accepter que Dieu fasse autrement que ce que nous espérions. Mais un jour ou l'autre, on est obligé de gérer la déception. Dieu nous décevra parce que son plan n'est pas mon plan. Ses pensées ne sont pas mes pensées. Et des fois, pour essayer de m'amener à rentrer dans son plan, dans ses pensées, eh ben, il va me décevoir. Parce que nous, de toute façon, hein, on calcule les choses, il faut qu'il obéisse immédiatement. On sera inévitablement déçu. Mais des fois, c'est difficile. Pourquoi il a repris un tel? Pourquoi il me fait passer par là? Pourquoi il ne m'accorde pas cela? Pourquoi cette porte est fermée? On est inévitablement un jour déçu. Je dis bien le problème, il n'est pas dans la déception, mais dans la gestion de la déception. Parce que comme il n'a pas su accepter, il s'est laissé aigrir, la porte s'étant ouverte, et le péché qui était tapi comme une bête féroce, hein, c'est l'image qu'on a comme Dieu en parle, eh bien, il s'est engouffré, il a pénétré. Et la déception s'est transformée en abattement, en colère, en amertume, en irritation, vous mettez en jalousie, et ça aboutit à un moment donné jusqu'au meurtre. Caïn fut placé devant un choix. Si tu agis bien ou si tu agis mal. Ce petit choix, on le connaît tous. Hein. Le bien et le mal. Des fois là, à l'intérieur, ou là, je ne sais pas où on met la conscience, mais ça bataille. Hein. On connaît tous ce choix difficile entre le bien et le mal. Des fois, on n'est pas net, des fois, on n'est pas clair, des fois, on choisit le mal en se disant qu'il n'y aura pas trop de conséquences. On se fait avoir. Mais il y a des moments, il y a des moments où c'est faire ce mauvais choix ou ne pas faire le choix du bien, c'est ouvrir une porte et après, on ne maîtrise plus rien. On a vu des personnes, des fois, faire des mauvais choix. Et à un moment donné, elles perdent complètement la maîtrise. On ne maîtrise pas grand-chose sur nos vies. Mais il y a des moments où Satan prend l'avantage. Parler avec des pasteurs et on se posait la question, toujours difficile, comment des fois le diable, à un moment donné, peut prendre. Des fois, on a des personnes qui ont tellement ouvert au péché qu'on a l'impression qu'elles sont possédées tellement. Il y a tellement une force du péché qui est là. Le diable prend l'avantage. Et c'est difficile. Judas, il nous a dit que Satan rentrait en lui. À un moment donné, c'est difficile, mais si je fais le choix du mal, à un moment donné, il risque d'y avoir cette... Je vais être comme envahi. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui, il dévora. On est des fois souvent confronté entre le choix du bien et du mal. Hein, ce choix au niveau de la conscience, notons que ça s'est fait au bon moment pour Satan, pas pour lui. Mais il était fragilisé par la déception. La déception, la douleur, la souffrance peuvent nous fragiliser par rapport au péché. Et les tentations, elles viennent, entre guillemets, au bon moment, pas pour nous, mais pour lui. Au sujet de l'intervention de Dieu, je suis toujours dans l'idée de la gestion de la déception. Dieu est intervenu avec douceur pour lui parler, pour lui montrer que sa déception n'était pas insurmontable. Vous remarquerez qu'il ne lui parle pas de son frère. Mais Dieu interpellait Caïn pour qu'il réalise et qu'il prenne conscience du danger dans lequel il était. Il l'a interpellé pour qu'il prenne conscience de la férocité du péché. Le péché comparé dans la Bible à la lèpre, à une dette, à un mur ici, il est comparé à une bête féroce, cherchant à pénétrer, une fois qu'il est à l'intérieur, à les déloger. Je pense à ce lion qui est rentré dans une citerne à un moment donné. Une fois qu'il était dans la citerne, il a fallu quelqu'un de courageux pour aller le déloger et le tuer. Et lorsqu'il rentre dans la citerne de notre cœur, c'est difficile de le déloger. Le Seigneur voulait que Caïn réalise sa faiblesse par rapport au péché. Et surtout si on entrouvre certaines portes. Il fallait aussi qu'il prenne conscience de la source du péché. Où est-ce qu'on se bat? C'est au niveau du cœur. Je suis convaincu que Caïn avait tendance à mettre la faute sur son frère. C'est moi qui commence et c'est lui qui pique ma place. J'imagine un truc comme ça. Vous savez, les autres, ils ont souvent bon dos. Hein. On a du mal des fois à assumer nos fautes. Et on met la faute sur les autres. On se place en victime. Mais quand on se place en victime, ça pose un problème. C'est vrai que des fois, on est victime. Mais quand on se place systématiquement en victime, on n'assume pas son péché, vous savez ce qui se passe? Eh bien, le processus de la repentance, ça ne marche pas. On n'arrive pas à sortir du péché. À un moment donné, il faut assumer. Et là, il fallait... Vous savez, on est bon des fois pour mettre le péché sur les autres. Les pharisiens, ils étaient super bons dans ce domaine. Là, ils mettaient des fois la pression sur les femmes, sur la tenue. Mais Jésus leur dira, mais ça sort du cœur, hein. Ça vient du cœur. J'ai parfois vu les personnes qui étaient très à cheval des fois sur les tenues par rapport des fois aux femmes, même s'il faut, et des fois il y a la tenue, il faut veiller. Mais j'ai remarqué que souvent il y a un gros problème des fois chez certains. C'est un danger quand on se victimise. Dieu l'interpelle aussi sur la cause de la déception. Pourquoi? Le pourquoi, il revient plusieurs fois. Vous savez, des fois, quand on est découragé, abattu, la solution, ça serait de traiter le symptôme. Les traitements traitent les symptômes. Mais il faut réfléchir sur la racine du problème. Pourquoi je suis découragé? Pourquoi je suis abattu? Parce que si seulement je cherche à soigner les effets et je ne vais pas à la racine, je vais rester dans mon problème. Et puis, Dieu l'interpelle sur la possibilité de pouvoir s'en sortir mieux, de faire mieux. Il lui dit, domine sur lui. Ça veut dire repousse-le. Et ça veut dire, tu as le pouvoir. Je parlais il y a assez longtemps avec un docteur qui devait intervenir dans l'assemblée sur les addictions. Un frère de l'église, mais il intervenait, c'était très intéressant. Mais il me disait, la difficulté ou l'une des difficultés, c'est à partir de quand on peut parler d'addiction. C'est, j'aime le chocolat. À partir de quand, je vais dire, c'est une addiction. Alors après, il y en a qui font sourire. Mais il peut y avoir des choses, on ne sait pas trop à partir de quand on peut... À partir de quand je perds le contrôle? C'est moi qui domine ou c'est la chose qui me domine? C'est pas facile, hein, et la liberté peut même devenir un piège à ce niveau-là. Là, il y a une parole en tous les cas. Toi, domine sur lui. C'est une parole qu'il faut retenir. Quel dommage que Caïn n'ait pas su saisir cette parole si tu agis bien. Rappelons-nous que le péché se couche à notre porte et que des fois on est fragilisé par des déceptions, le découragement. Mais rappelons-nous aussi qu'il n'y a pas que le péché qui se couche à la porte. Nous avons un Seigneur qui se tient non seulement dans notre vie, mais qui se tient aussi à la porte. La porte, c'est tous ses choix, tous les accès qu'il peut y avoir au niveau de notre cœur. Et rappelons-nous que le Seigneur, il se tient aussi à la porte. Et il est celui qui veut nous aider. Je suis conscient d'aborder là un sujet où personne, on est tous confrontés à cette réalité du péché. Celui qui dit, moi, il n'y a pas de problème, je ne me sens pas concerné, il y a un menteur. On est tous confrontés à la subtilité du péché. Mais rappelons-nous que le Seigneur, il est celui qui se tient la porte. Il est celui qui veut nous aider. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes des pécheurs, marqués quand même par la faiblesse, et qu'on a besoin de sa grâce, on a besoin de son esprit. Mais il est celui qui veut nous aider. En tous les cas, pour Caïn, pour revenir dessus, en refusant de traiter son problème, ben, il a ouvert un accès. La Bible dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez point accès au diable. Combien de temps ça a pris entre le fait d'ouvrir la porte de son cœur et le crime? Quelques jours? Quelques années? Quelques décennies? Il vivait trop longtemps? Quelques centaines d'années? On ne sait rien. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, vous savez, comme aujourd'hui, sur les appareils, vous avez une usure programmée. J'oserais dire, là, il y avait une chute qui était programmée. Parce qu'à un moment donné où la porte était ouverte et qu'on ne traite pas le problème, c'est comme un cancer, c'est inévitable. Il y avait une bombe à retardement. C'était qu'une question de temps. La troisième faute de Caïn, c'est celle sur laquelle où je ne m'attarderai pas. Caïn tue son frère. Je ne m'attarde pas dessus parce que finalement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment il en est arrivé là. Mais je dois dire quand même que même si Dieu pardonne tous les péchés, même ce qu'il a fait, c'est quand même gâcher la vie. Hein. C'est mieux de permettre à Dieu d'intervenir avant. Mais je voudrais surtout préciser ici quelque chose. C'est que Caïn, au départ, il n'a rien d'un criminel. Et ça, on ne doit jamais le perdre de vue. Caïn, au départ, c'est un travailleur. C'est un jeune homme qui veut plaire à Dieu. Et il est devenu ce qu'il a devenu. Ne perdons jamais de vue cette réalité. Le péché peut me faire devenir ce que j'aurais jamais pensé devenir. Je me rappelle un jour cette réflexion, alors que j'étais en train de dégringoler. Heureusement, c'est avec du recul, c'est quelque temps avant que je me convertisse. Et je me dis à un moment donné, mais je suis en train de devenir et d'être ce que j'aurais jamais pensé devenir. Le péché, c'est une puissance qui est plus forte que nous. Et si on la laisse nous dominer, elle fera de nous des gens abjects. Des gens, on va devenir ce qu'on n'aurait jamais pensé devenir. Et ça, ça fait peur. La quatrième faute, celle-ci, elle m'interpelle aussi, Caïn ment à Dieu. Il ment pas à son père et à sa mère, hein, même s'il a dû mentir. Caïn ment à Dieu. L'Éternel pose la question, où est ton frère? Alors il ment délibérément, je ne sais pas. Il oublie que Dieu, il sait tout, qu'on ne peut pas lui mentir. Mais ça, même nous, on est capable d'oublier, hein, des fois. On a une telle capacité de se mentir à soi-même que... Mais en plus, il ajoute, suis-je le gardien de mon frère? Pour appuyer son mensonge, c'est presque... Il fait le vexé de la question de Dieu. On n'est pas loin de l'arrogance, là. C'est carrément de l'insolence, ouais. Et ça montre quoi? En tous les cas, ça nous montre que Caïn, c'était déjà un bon menteur. Et vous savez, quand un bon menteur, c'est quelqu'un qui a menti plusieurs fois. Hein. C'est quelqu'un qui s'est initié les premiers mensonges. On transpire, mais après, on ne transpire plus. Hein. On devient très bon dans le mensonge. Il n'en était pas à son premier. Au point de savoir mentir de cette manière-là. Quelques remarques sur le mensonge. Je le dis souvent et je le rappelle, dans une spirale de péché, il y aura toujours à un moment donné un maillon, souvent le deuxième ou le troisième qui s'appelle le mensonge. Parce que quand je commets une faute, je vais mentir pour camoufler mon péché, inévitablement. Et c'est pourquoi il faut réagir et refuser le mensonge dans sa vie. Parce que le mensonge va m'enfermer dans une prison, il va me bloquer. Et le mensonge, il s'inscrit là dans une succession de fautes. Il y a des fautes plus graves. Mais le mensonge l'enferme un petit peu dedans. Je voudrais dire aussi ceci, c'est que il serait juste de considérer ou de nuancer le mensonge. Les raisons pour lesquelles on ment peuvent être diverses. On peut faire la différence dans la Bible entre le mensonge de Caïn pour dissimuler son péché, entre le mensonge de Judas qui piquait dans la caisse, et puis par exemple le mensonge de ces sages-femmes qui on mentit à Pharaon pour pouvoir sauver la vie des Hébreux, ou même on peut faire une distinction avec le mensonge de Sarah. Quand l'ange de l'Éternel annonçait qu'elle sera enceinte et qu'elle aura un fils l'année prochaine, elle a ri, un peu par dépit. Et quand l'ange de l'Éternel lui a dit « Tu as menti », elle dit « Par peur, un peu par panique », elle dit « Non, je n'ai pas menti ». On peut faire la différence entre tous ces mensonges. Il y en a des plus graves que d'autres. Mais c'est dangereux de faire cette distinction. Et puis parce que des fois, le mensonge, on commence par peur, à mentir par peur, puis un jour, on finit par mentir par préméditation. Donc là, entraîne, donc c'est quelque chose de dangereux. C'est pourquoi le mensonge, il est à bannir de nos vies. Il y a un frère qui m'a envoyé un article sur le mensonge, hein, la psychologie du mensonge, mais... Alors aujourd'hui, vous savez, il y a des gens, sous prétexte qu'on échappe en mensonge, on est obligé de mentir un jour ou l'autre. Ça, c'est dangereux, quoi, ce genre d'argument. Le mensonge, on le refuse dans nos vies. On veut le refuser, surtout, on refuse une vie dans le mensonge. Parce que ça, c'est quelque chose de terrible. Et puis, une autre remarque par rapport au mensonge de Caïn. Dieu ne se laisse pas arrêter par le mensonge de Caïn. C'est Dieu qui lui donne qui dit la vérité. Et non Caïn qui confesse sa faute. Et ça fait une différence. Entre quelqu'un qui dit, hop, qui reconnaît sa faute, ou quelqu'un qui s'enferme dans un mensonge, ça fait une différence. Et nous comprenons que si Caïn avait dit, pardonne-moi, j'ai péché, il y aurait encore une possibilité de grâce pour lui. Sauf que là, il ment, c'est Dieu qui intervient, et cette voix qui lui annonçait jusque-là la possibilité de s'en sortir, elle lui annonce désormais un jugement. La cinquième faute, on pourra en trouver d'autres, hein, mais la cinquième faute, c'est qu'un ne se repent toujours pas. Même après. L'Éternel prononce sur lui une malédiction, un jugement. Il lui dit que le travail de la terre sera difficile pour lui, pénible, alors qu'il était manifestement bon dans ce domaine, et qu'il sera errant, instable, fuyant. En tout cas, cela va attrister qu'un qui dira « c'est trop dur comme châtiment ». Mais là, je voudrais dire deux choses. D'abord, Caïn s'attriste. Alors, on pourrait dire, ah, mais regardez, il est en train de se repentir. Il est triste de ce qu'il a fait. Non, non, non. Il n'est pas triste de ce qu'il a fait. Il est triste des conséquences du péché sur sa vie. Et là, il y a une différence. J'ai vu des personnes pleurer à cause de leur péché, mais non pas du mal qu'ils ont fait à leurs parents, non pas du mal qu'ils ont fait autour d'eux, non pas du mal qu'ils ont fait aux victimes, non pas du mal qu'ils ont fait à Dieu. Mais je les ai vus pleurer sur les conséquences de leur péché. Parce que leur vie est gâchée à cause de leur péché. Et ça, ce n'est pas une tristesse qui produit la repentance. C'est une différence, mais elle est importante. Caïn, il s'attriste. Parce que, voilà, j'ai péché, maintenant ma vie va être une vie de galère. Mais il n'y a aucun regret pour ses parents. Il n'y a aucune tristesse par rapport à ce qu'il a fait au mal. On voit que Dieu est blessé par le fait qu'une vie a été reprise. Mais lui, ça ne lui pose pas de problème. Et puis, je remarque aussi que sa discussion avec Dieu, ça ressemble plus à une négociation de peine que l'acceptation de la peine de Dieu. Ah, c'est trop dur pour moi, tu ne peux pas mettre quelque chose de moi, enfin faire une réduction. Le châtiment que Dieu lui donne, il nous échappe un petit peu. Hein. J'ai toujours du mal à comprendre. Caïn va être chassé de la terre qu'il connaissait, d'où ses craintes, la peur de Caïn, il a peur de partir dans l'inconnu, d'être sans protection. Dieu lui assure quand même une protection. Il lui met une marque, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais finalement, retenons quand même qu'au bout, il y a quoi? Le résultat, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Et là, on arrive toujours à la conséquence du péché, elle est là. Il nous amène loin de Dieu. Je termine simplement en disant ceci. Le péché, c'est une puissance féroce. On y est tous confrontés. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous menons régulièrement un combat au niveau de la conscience, au niveau du cœur, au niveau de l'être intérieur. On doit veiller avec les portes à l'intérieur. Parce que si on en trouve certaines portes, après ça s'engouffre, on justifie son péché. On essaie de mettre la faute sur les autres. On le minimise. On dit « c'est pas péché », mais on rentre dans un engrenage et on va se faire avoir, parce qu'il sera plus fort pour lui. Celui qui est le plus fort que le péché, c'est lui. C'est le Seigneur, il est celui qui peut nous aider. Son sang nous lave de tout péché. Et il continue de nous laver de tout péché tant qu'on met les choses à la lumière. Frères et sœurs, on veut se battre contre le péché. Nous vivons dans une sphère de péché, dans un monde de péché où il est banalisé, il est légalisé. Et nous, on veut lutter. On se fera avoir, mais on veut lutter au niveau de notre cœur et mettre les choses en lumière. Le sang de Jésus nous lave de tout péché. Et il continuera de le faire. Rappelons-nous toujours de 1 Jean chapitre 1er qui montre les bonnes attitudes. On veut s'éloigner du péché, nous marchons en pleine lumière. Et si, on ne veut surtout pas dire qu'on n'a pas de péché. Et si on a péché, nous les confessons. Et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Rappelons-nous que le Seigneur se tient à la porte. On est dans un combat. Notre combat, il est là. C'est l'un de nos combats. Mais vraiment que le Seigneur nous aide dans ce combat-là, c'était bien de le rappeler, dans cette période de rentrée. Ne nous trompons pas de combat et on veut vraiment batailler avec le péché. Jésus a pardonné, il ne voit plus nos péchés. Mais nous, on les voit encore. Hein. Et ils sont là et on se bat avec. Que le Seigneur nous aide dans ce combat-là. Seigneur, merci de nous accorder ta grâce, ton secours dans ce combat. Parce que si Caïn a pris ce chemin-là, Seigneur, et qu'il a entrouvert la porte, il est... Seigneur, on est capable de faire pareil. Et on veut refuser cela. On ne veut pas que le péché domine sur nous, mais on veut dominer sur lui. Comme le tenir à distance. On a besoin, Seigneur, d'apprendre à bien gérer. Seigneur, notre liberté. Seigneur, nos temps libres. On a besoin d'apprendre à bien gérer l'équilibre. Seigneur, donne-nous de la sagesse. On ne veut pas... Seigneur, vivre complètement fermé à tout, mais en même temps, on veut constamment protéger nos cœurs, veiller sur nos affections, veiller sur nos aspirations, veiller sur nos désirs. On ne veut pas que le péché nous colle ses propres désirs. On ne veut pas être contaminé, Seigneur. On a besoin de ta grâce. Seigneur, tu nous as lavés par ton sang, tu continues de le faire. On a besoin de ton secours et ta force. Merci de bénir chacun d'entre nous. Bénis les enfants parce qu'ils y sont confrontés. Bénis les jeunes et qu'ils ne gâchent pas leur vie, au nom de Jésus. Bénis les couples, Seigneur, on connaît les dangers et les difficultés. Bénis les plus âgés, parce que même quand on vieillit, le péché, on n'en a pas fini avec. Seigneur, on a besoin de ta grâce. Seigneur, sans toi, ce combat, il est plus fort que nous. Mais avec toi, on peut accomplir des exploits. Merci de renouveler, de fortifier ce matin, d'encourager ton Église, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.